franceinter.fr.
Campagne, bonjour les carnets. Deuxième journée en Haute-Loire. Julien, habitant ce département, vient de créer un journal qui distribue gratuitement sur le net des informations sur l'actualité locale. Il y a des fêtes société, mais aussi des événements culturels. Il a baptisé son journal La Commère 43. Je vous laisse juger de la pertinence ou de l'impertinence du titre. Le site, c'est lacommère43.fr. Aujourd'hui, nous commençons par la création 100% altigérienne qui va intéresser les habitants de toutes les zones rurales d'un concept de chaufferie à plaquettes bois dont les bénéficiaires n'ont que les calories achetées et non une complète installation, souvent onéreuse. C'est la coopérative R43 qui crée et diffuse ce système de chauffage. Explication avec Jacques Villevieille et Noémie Alves. C'est une des quatre créatrices du seul café associatif familial du département. C'est un espace ouvert à multiples activités, rencontres parents-enfants. Au Puy-en-Velay, Noémie sera donc notre seconde invitée.
Carnet de campagne, Philippe Bertrand.
Jacques Villevieille, bonjour.
Bonjour.
Jacques, gérant de la SIC R43. Alors R, c'est énergie renouvelable et environnement. Né en Haute-Loire sous forme associative en 2001 et devenu SIC, donc Société Coopérative Intérêt Collectif, en 2007. Et alors, explication, vous mettez au point des micro-chaufferies.
Oui, au lieu de vendre un objet, quelque part on vend de la chaleur.
Ah oui.
Donc on cherche un collectif suffisamment important, privé ou public, pour que ça justifie un investissement dans ce genre de technologie. Et on fournit l'intégralité du service. On met un compteur à l'entrée des bâtiments et on facture la chaleur en fonction du compteur et de la consommation de chacun.
D'accord. Donc vous avez quand même une chaudière. Alors on va parler, ce sont des chaudières bois. Et donc les usagers peuvent acheter des calories et profiter de cette énergie.
Voilà, c'est ça. C'est quand même relativement complexe, la technologie énergie renouvelable. Il y a quand même pas mal de contraintes. Donc l'idée, c'est que ce soit une entreprise, une structure coopérative comme nous, qui intègre toutes ces contraintes et on fournit un service rendu de manière à ce que les gens puissent se consacrer sur d'autres priorités que celle-là.
Ah oui, parce que j'ai l'exemple donc dans votre dossier un témoignage d'un restaurateur à Saint-Bonnet-le-Froid qui dit « Voilà, il fallait que je remplace ma chaudière. Et j'ai acheté à R43 des calories. Il s'occupe de l'étude, de l'installation, de la chaufferie bois, de la gestion intégrale du projet, de l'approvisionnement, de la maintenance et même du suivi de la consommation de chaleur. J'ai plus rien à faire et j'ai fait des économies. »
Voilà, c'est un petit peu l'objectif. Oui. Ouais.
Mais alors là, en l'occurrence, s'agissant de ce restaurateur, vous avez installé malgré tout sur place, dans son établissement, une chaudière bois.
Alors on l'a installé sur un parking en fait, si vous voulez. Sur le parking du personnel, on a condamné une place de stationnement et on est venu poser ce qu'on appelle une chaufferie container. Mmh. Donc c'est un peu plus joli qu'un container, hein, c'est une forme un petit peu travaillée, mais ça tient la place d'une fourgonnette, on va dire. Mmh. Donc on pose ça sur le parking. Au préalable, on avait fait un tuyau qui passait sous le parking, qui va du bâtiment jusqu'à cet emplacement-là, et on pose notre chaufferie, on la raccorde, et puis on injecte de la chaleur dans ce circuit, qui va ensuite distribuer l'eau chaude dans le bâtiment.
Alors si je comprends bien, la chaufferie que vous installez, vous pouvez la désinstaller aussi.
Tout à fait.
Et alors, c'est vous qui êtes le concepteur de cette chaufferie que vous appelez modulaire.
Oui, oui, oui.
Et alors, qui l'a construit? Parce que là, pour l'instant, vous en avez quand même un certain nombre qui sont en fonctionnement.
Donc on l'a construit avec un charpentier, un constructeur de maisons au Saturbois qui est sur notre territoire. Et donc on travaille avec lui. Mmh.
Le bois est local aussi?
Ah oui, oui. Là, le principe c'est de le collecter à moins de 10 km de l'endroit où il va être utilisé.
Et il est issu des sous-produits de la forêt, du travail du bois.
Voilà. Oui.
Est-ce que les particuliers peuvent profiter de ce concept?
Alors, si c'est des particuliers qui habitent à côté d'un collectif important, oui. Mais jusqu'à présent, on n'a jamais installé une chaufferie pour des particuliers. Quand le tuyau passe devant la maison de particuliers, on leur demande s'ils sont intéressés pour se raccorder ou pas.
Mmh. Alors vous êtes soucieux aussi d'un équilibre donc écologique et d'un impact écologique, puisque vous l'avez cité rapidement, vous avez installé des plateformes de stockage afin de limiter les transports.
Oui, c'est-à-dire que nous, on voulait que notre activité économique et on veut qu'elle ait le plus faible impact environnemental possible. Donc l'idée, c'est déjà d'arriver à remplacer des combustibles fossiles pour faire du chauffage renouvelable, mais aussi d'essayer d'être cohérent dans la démarche, y compris sur le côté transport.
C'est une économie locale, on va dire presque circulaire, parce qu'il y a les professionnels du bois, il y a les bénéficiaires, les collectivités, les utilisateurs de chaleur, les entreprises aussi intermédiaires. Finalement, c'est un modèle économique que vous venez d'inventer, là.
Oui, je ne sais pas si on peut dire qu'on vient d'inventer. On essaye de remettre au goût du jour ce qui s'est fait pendant pas mal de siècles.
Et c'est un principe qui est typiquement adapté au milieu rural.
Milieu rural et milieu périurbain, oui. Oui, ça s'adresse à des petits collectifs. Ou alors des collectifs plus grands, si c'est des maisons vraiment très très bien isolées. Notre petite chaufferie là, donc, qui tiendrait sur un emplacement de parking, elle pourrait chauffer 50 habitations, très basse consommation d'énergie.
Ah ouais, dites donc, c'est efficace.
C'est efficace si le bâtiment en face est efficace.
Bien sûr.
Si c'est une passoire, si c'est un bâtiment tout parfait, on peut mettre 10 chaufferies, on chauffe dehors.
Vous avez pensé à aller au-delà des limites de votre département et de la région ?
Oui, on essaie justement un peu d'essaimer le concept. Mais c'est l'intégralité du concept, y compris avec une structure coopérative.
Bien sûr. Et vous, c'est le cas, c'est-à-dire c'est une SIC à but non lucratif.
Voilà. Hein. Les bénéfices doivent être réinvestis prioritairement dans la filière.
Absolument. Et c'est 58 associés et 4 salariés pour cette formule magistrale des micro-chaufferies. Le site, c'est R, donc E-R-E pour énergie renouvelable et environnement, r43.fr. Merci Jacques Villevieille.
Merci beaucoup.
Merci, bonne journée.
Bonne journée, au revoir.
Récemment, un auditeur s'étonnait que les carnets donnent parfois la parole à des luthiers, récemment un luthier de guitare, alors que nous sommes dans des niches de production qui n'apportent rien, selon lui, aux alternatives que nous mettons en valeur chaque jour. Détrompez-vous, amis. Les centaines de luthiers qui créent leurs bijoux d'instruments sont souvent installés dans des lieux reculés où leur travail apporte une vie supplémentaire. Et puis d'autre part, ces artisans ou artisans d'art se positionnent dans un secteur de production qui est très grandement phagocyté par l'industrie asiatique. Ils représentent tous, par leur savoir faire leur passion, une alternative courageuse au monopole du formatage industriel. Alors, aimant la musique, je relaie aussi le courrier de Stéphanie qui nous présente le seul facteur de clavecin de Haute-Loire, en sachant qu'ils sont tout juste une vingtaine en France, installés depuis 2 ans dans un hameau de la commune de Saint-Paulien. Frédéric Bertrand, on n'a aucun lien de parenté au passage, est un facteur restaurateur de clavecin typique. Fils d'agriculteur, il a suivi des études à l'école des Beaux-Arts de Saint-Étienne avant de partir enseigner les arts plastiques en Haute-Marne. Et puis quelques années plus tard, ce quasi-autodidacte de la facture instrumentale démissionne de son poste et se lance dans le projet de créer des instruments loin des agitations du monde dans un hameau de Haute-Loire. C'est vrai que c'est assez paumé là où il est, mais c'est charmant. Le talent et l'audace peuvent aider. Frédéric sera d'ailleurs le seul facteur dans sa première commande à assumer la commande d'un clavecin particulier, petit et fragile, de type virginal. Pour les néophytes, c'est un corps d'instrument qui ressemble à un coffre et puis son clavier de 3 octaves qui est inséré dans un espace appelé boîte à clavier, je dis pas de bêtises, j'ai vérifié dans le dictionnaire, et porté par le retour de la musique baroque et des compositions contemporaines pour l'instrument, je peux vous dire que l'atelier de l'ancien prof produit en permanence des bijoux qui sont joués partout en France, voire au-delà. Il a une page Facebook et vous allez trouver le lien, Frédéric Bertrand 43, vous allez voir, c'est somptueux ce qu'il réalise. Noémie Alves, bonjour.
Bonjour Philippe.
Noémie, une des 4 fondatrices de l'association Les Jeunes Pousses. Vous étiez 4 femmes à l'origine ?
Eh oui, 3 mamans et une professionnelle de la petite enfance qui se sont rejointes. En fait, on se connaissait 2 et 2. Voilà, on était 2 binômes qui se connaissions déjà. Et puis quelqu'un nous a réunis en nous disant « Je crois que vous avez un peu la même idée ». De là est née l'association Jeunes Pousses, donc au printemps 2012, et avec l'envie de créer un café où adultes et enfants pourraient s'y retrouver et auraient une place. Voilà, chacun s'y sentirait bien parce qu'il y aurait pour tout le monde la place et de quoi faire.
Noémie, ce café dont on va parler est une originalité. Je crois que c'est le seul du genre en Haute-Loire. Mais moi, je voudrais savoir d'abord, quand vous vous êtes constitué en association en 2012, vous avez eu une période d'animation familiale en tournant dans différentes localités. C'est quoi l'animation familiale et ces besoins aujourd'hui que l'on rencontre de plus en plus de relations parents-enfants ?
Eh ben, c'est vraiment de passer du temps en famille parce que voilà, les enfants sont à l'école, les parents sont au travail, et puis après chacun a des activités diverses et variées, mais séparément. Et l'idée là, c'était vraiment de proposer des temps de partage et de loisirs, alors autour d'une activité ou autour du simple plaisir de se retrouver, mais avec les parents et les enfants autour de voilà d'un même lieu, d'une même activité. Pour renforcer les liens familiaux.
Parfois, il y a des soucis relationnels, justement, entre les générations, entre les parents et les enfants. Est-ce que vous avez à supporter aussi ce souci?
Oh, bah, bien sûr, ça existe. Après, c'est déjà une démarche, quand même, de venir dans le lieu. Donc, c'est des gens qui sont sensibles au temps partagé et qui sont dans cette démarche-là. On ne fait pas de médiation familiale à proprement parler. On n'a pas d'action sociale propre. Disons qu'il y a un réseau de professionnels qui s'occupe de ce genre de choses. Et nous, on est une autre proposition. Ça peut avoir lieu dans le café aussi, mais c'est du travail plus souterrain et on se substitue pas aux professionnels de l'enfance dans ce genre de cas. Enfin, on est confronté à la difficulté familiale ordinaire, on va dire.
Ouais. Je ris parce qu'on entend... Oh là.
Oui, très fort.
Ah oui, oui. Que se passe-t-il? Il y a combien d'enfants? Que se passe-t-il en ce moment?
Deux, mais une seule qui occupe l'espace.
Le café, vous l'avez ouvert en mai 2014. Il ne devait durer qu'un mois. C'était un café associatif éphémère. Et puis finalement, vous avez été débordé par le succès?
On n'a pas été débordé puisqu'on l'espérait fortement. Mais c'était un peu pour faire nos preuves que... On a dit, on ouvre un mois, et puis comme ça, tout le monde verra que ça a vraiment une importance pour les gens, pour les familles, puisqu'on n'avait à ce moment-là pas de soutien autre que celui du Fonds social européen et celui de la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay, mais au niveau de la ville, il n'y avait pas grand intérêt à nous voir émerger. Donc c'était vraiment un peu faire nos preuves, montrer que si, c'est... Ça avait de l'importance.
Alors, Jeune Pousse a ouvert donc son café associatif, qui est maintenant pérenne. Il est associatif, écologique et familial, c'est dans un ancien bar en plein cœur de la ville du Puy-en-Velay. Qui trouve-t-on? Que se passe-t-il pendant les 3 jours d'ouverture chaque semaine de ce café associatif?
Alors, il y a chaque jour une proposition d'animation, au moins une, mais parfois deux. Alors, on y trouve des contes, des activités de découverte de Montessori, de la musique, des éveils artistiques de tout genre, que ce soit ça va de la musique à la peinture, au dessin, du bricolage, des petites animations d'expériences scientifiques, il y a plein de choses. On est ouvert aux propositions des adhérents, c'est porté par des adhérents et un salarié qui propose aussi des animations en plus. Mais c'est vraiment, ça émerge de l'envie des adhérents de l'association.
Oui. Les propositions sont gratuites ou selon les volontés, les moyens, à participation libre?
Il y a les deux formules. Quand c'est un simple petit atelier, patouille, c'est gratuit. Quand ça fait appel à un savoir-faire qui a demandé une formation... Ça peut être payant, comme l'éveil musical et les activités Montessori, mais on ne dépasse jamais les 3 euros par personne.
Et vous intervenez hors les murs, dans le cadre de festivals?
Voilà, c'est ça. On est sollicité par diverses associations et festivals alentours, parce que de plus en plus, dans les festivals, on ne trouve plus des espaces enfants, en fait. Hein.
Oui.
Vraiment des espaces d'animation pour les familles, pour qu'elles puissent, sur le temps du festival, partager une petite activité.
Il y a un site, le blog, c'est Café Jeunes Pousses, les Jeunes Pousses au pluriel, hein, parce qu'ils sont nombreux. C'est caféjeunespousses.blogspot.fr. Merci Noémie.
Merci Philippe.
Bonne journée.
Merci tous les membres de la collégiale sans qui ce café n'existerait pas. Et puis Jean-Baptiste, nos salariés, qui le fait vivre au quotidien.
Oui.
Ainsi que tous les financeurs qui croient en nous et puis dont on a besoin encore et toujours.
Merci de la remarque et bonne journée Noémie.
Merci, au revoir.
Au revoir. Avant de nous séparer, en prévision des missions futures, si vous habitez la Seine-et-Marne, vous êtes à l'origine d'actions innovantes alternatives, n'hésitez pas à nous écrire la Seine-et-Marne.